Merci aux Médusales de nous accueillir pour ce moment. Voilà, centré autour de ce recueil qui s'appelle « Goudou, où êtes-vous ?». Donc je suppose que si vous êtes là, c'est que vous en avez un peu entendu parler. Donc on ne va pas vous refaire toute l'histoire de ce livre, mais dire simplement quelques mots en introduction. Et puis après, il y aura un moment de lecture, et on a la chance d'avoir deux autrices avec nous, Émilie Beauvais et Jordan Altermat, et puis aussi deux autrices dans la salle, Margot Hubert et Joanne Chassot. Donc, elles sont là en force. Goudou êtes-vous, elles sont là en force, et il y en a d'autres. Et peut-être dire aussi en introduction, vous remercier d'être là, parce qu'en fait, chaque fois qu'on a eu des événements en lien avec ce texte, en fait, c'est plein. Donc ça fait assez chaud au cœur, et puis en même temps ça nous fait beaucoup réfléchir de savoir qu'est-ce que ça génère et qu'est-ce que ce livre vient dire du manque aussi de représentation et de texte pour la communauté lesbienne. Et on a présenté il y a quelques temps dans la librairie parisienne qui s'appelle Violette & Co. Et puis la libraire a commencé la rencontre en disant qu'elle l'avait lu, qu'elle avait ri dès la préface et pleuré dès le premier poème. Et que même en travaillant dans cette librairie, qui est une librairie spécialisée, en fait, elle avait toujours ce ressenti d'un manque qui, dit-elle, ne sera jamais vraiment comblé. Donc, on y travaille, et ce livre est venu notamment parce qu'on a lancé en 2021 une collection qui s'appelle Grataku, consacrée aux écrits LGBTQIA+. Et en fait, après un an et demi, on s'apercevait qu'on recevait très peu de propositions de manuscrits lesbiens, on va les appeler comme ça. Et donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. On va lancer un appel aux écritures spécialement lesbiennes. Et il y a eu 175 propositions. Donc, Goudou êtes-vous, elles étaient là. Et on en a gardé 27. On a travaillé avec les auteurices. Je dis auteurices parce qu'il y a aussi des personnes qui ne s'identifient pas comme femmes dans le livre. Tout genre littéraire confondu. Il y a des textes très courts, il y a des textes beaucoup plus longs, il y a de la science-fiction, il y a de la poésie, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a des coups de gueule, il y a à peu près tout. Ce qui fait une sacrée expérience de lecture aussi. J'avais un peu envie de vous poser des questions, mais est-ce que vous préférez que je pose les questions avant ou vous préférez lire avant, histoire d'être débarrassé de la pression?
Moi, je serais plus à l'aise de lire que de répondre à tes questions, donc tu peux y aller.
Okay. Feu pour la lecture.
Ça me va très bien.
Feu pour la lecture ou les questions?
Non, feu avec les questions.
Les questions,
avec les questions. Non, mais... déjà, comment est-ce que l'appel est arrivé jusqu'à vous? C'est peut-être une question intéressante. Et pourquoi vous avez décidé de tenter un texte pour ce projet collectif? La grosse question tout de suite. Bam!
Moi j'ai vu l'appel à texte sur Facebook, parce que j'utilise encore Facebook, comme de le dire. Et j'avais ce texte qui était écrit, que j'avais écrit au début pour un concours d'écriture. Ça n'a rien donné. Et je l'ai terminé pendant le confinement. Et puis je l'ai laissé traîner un peu, mais ça m'embêtait qu'il traîne, j'avais envie d'en faire quelque chose. Puis je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de le sortir à ce moment-là.
L'occasion fait la larronne.
C'est ça.
Voilà. Je n'invente rien, c'est dans un des textes qu'une personne a écrit l'occasion fait la larronne.
Pour moi, en fait, j'ai aussi vu passer l'appel à projet, enfin on me l'a transmis, et puis j'avais pas de texte du tout. Je pense que c'était quelque chose qui m'effrayait un petit peu, parce que ça m'a fait vraiment me replonger plutôt dans des souvenirs et des choses que j'avais envie de transmettre. Donc c'était un vrai challenge pour moi. Enfin, je me suis dit, il y a peut-être de l'intime que j'ai envie de partager. Puis en même temps, il y avait quand même quelque chose de l'ordre d'une urgence de le faire. Je trouvais que ça s'inscrivait vraiment dans ce que vous proposiez. Donc là, pour le coup, je me suis isolée un petit moment pour l'écrire et puis pour coucher ça sur le papier et puis pour oser l'envoyer, ce qui était pas évident parce que je suis pas du tout habituée à des textes plus intimistes.
Parce que c'est notamment ce que tu expliques dans l'introduction, c'est que tu écris par ailleurs mais des choses pas créatives.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai que je travaille dans le monde plus un peu académique où il faut écrire beaucoup, mais c'est pas des textes où on est situé, où on est vraiment centré sur soi. Et là, ça me demande un autre degré de partage de moi, donc oui, c'était ça m'a coûté un peu, mais dans le bon sens du terme.
Vous avez décidé laquelle des deux va commencer à lire?
On n'a pas du tout décidé.
Ok. Lecture?
Ouais.
Ok.
On on se met sur nos trônes.
Magnifique.
Tu veux commencer?
Comme tu veux.
J'y vais, tu vois.
Ok.
Alors mon texte s'appelle Mettre de l'eau dans la bouilloire. Peut-être juste avant une toute petite introduction, je fais de l'improvisation et juste avant d'écrire ce texte, j'avais fait un stage dans lequel on disait qu'il fallait vraiment laisser la place aux spectateurs de pouvoir s'imaginer des choses. Donc ce texte c'était un petit peu un essai pour voir à quel point je pouvais m'auto-censurer puis raccourcir un peu mes phrases puis vraiment essayer de laisser le lecteur imaginer un petit peu plus ce décor. Ce que j'ai pas réussi à faire tout le long du texte, les phrases se rallongent. Mettre de l'eau dans la bouilloire, l'enclencher. Ouvrir un livre de cuisine en attendant que l'eau chauffe. Regarder les mots sans les lire, le refermer. Verser le liquide transparent sur les feuilles de menthe fraîche. Humer les effluves. M'installer sur le volumineux coussin posé sur le rebord de la fenêtre dans le bow window. Sentir la chaleur émanant du radiateur et le courant froid traversant le vieux vitrage. Regarder le lac assombri par de lourds nuages. Penser à toi, penser ma vie aussi. Ma mélancolique routine matinale de ces deux derniers mois froids, chez toi, sans toi. Le sentiment que le temps s'est alors arrêté et allongé tout à la fois. Benjamin m'avait appelé tardivement pour m'annoncer que c'était la fin, qu'il me restait peu de temps si je souhaitais te voir une dernière fois, poser ma tête sur ta poitrine et entendre battre ton cœur comme je le faisais enfant. J'en voulais terriblement à mon frère de ne pas m'avoir alerté plus tôt. Paris-Lausanne, trajet si rapide que j'empruntais 4 fois l'an, une fois à chaque saison, mais distance si longue quand le temps n'attend pas, quand il presse, file et se faufile, se perd inutilement. Tu n'as pas pu m'attendre, tu as rendu ton dernier souffle en mon absence. On t'a enterré un jeudi dans l'intimité. Soleil frais d'automne à Rol, le thé sur la terrasse de la confiserie Bocard, les enfants grignotant le sucre des petits pains et abandonnant le reste aux moineaux. Discussion conventionnelle et sourire crispé. Le lac, immuable et tendu d'eau, rassurant et majestueux. Mon deuil pouvait commencer. J'avais vraiment besoin de mettre ma vie en pause pour arrêter ma fuite en avant, ma course frénétique à la recherche de je ne sais quoi. À Paris, il est facile de ne pas se poser de questions. L'agitation t'emporte. Des opportunités, des soirées qui durent jusqu'au matin, des rencontres à chaque coin de rue. Ma demande de congé a été acceptée et je me suis installée chez toi dans cette maison de ma petite enfance, au chemin du Martinet. J'ai retrouvé les odeurs familières de cette vieille bâtisse imprégnée de toi. J'ai 2 mois pour trier tes affaires. Voilà pour le prétexte officiel. En réalité, je veux réfléchir à tout ce que je ne t'ai pas dit, échafauder une nouvelle vie. Imaginez la suite. Lorsque Jade m'a signifié la fin de notre relation, je n'ai pas compris. Entraînée par ses promesses d'une vie plus simple, plus transparente, où l'on n'aurait pas à se cacher, j'avais quitté la Suisse du jour au lendemain, pour elle. Ou plutôt, je l'avais suivie, docile, un peu lâche, mais curieuse et très amoureuse. Je voulais laisser les choses se faire. Je n'ai jamais su prendre une décision seule. Le bonheur intense des débuts à deux, la liberté, la vie au grand jour, que de nouveautés et d'excitation. Puis, peu à peu, subrepticement, au poids des habitudes, se sont ajoutées nos disputes. Surtout autour de mon incapacité à dire non à qui que ce soit. Elle m'appelait la mère Teresa du quartier et affirmait passer au second plan. Je trouvais ça injuste. Évidemment, le sujet récurrent était le gros non-dit, le précieux secret. Elle m'a quittée avec une lettre déchirante qui m'a laissée sur le bas-côté. Des années de Jade. Des années passées ensemble à vivre entre la frénésie de la capitale et la douceur de notre cocon. J'avais la certitude que nos âmes étaient liées. Je ne peux pas dire qu'elle ne m'avait pas prévenue. Des années majoritairement joyeuses et légères, mais des successions de mois à dissimuler l'essentiel, à mentir à tout mon entourage et aussi à moi-même, à refuser de répondre à cette simple question « Qui es-tu, Chloé ?» J'étais en pleine léthargie, je me suis détestée de ne pas être rentrée quand tu étais hospitalisée. J'ai même pensé revenir définitivement en Suisse maintenant que ma relation avec Jade était terminée. Mais je n'aurais pas pu me retrouver près de toi sans tout te dire, sans t'expliquer mon départ et la distance qui s'était creusée entre nous. Je saute un petit bout. Quand nous venions chez toi, cet endroit était déconseillé. le grenier. Pas interdit, car nous n'aurions pas su résister à ce terme. Tu évoquais des souris, peut-être même des rats. Tu avais aperçu des crottes. Petite pièce sans histoire, pas sans secret. Je m'approche de la lucarne ronde. Le verre est un peu poisseux. Un coup de chiffon et la vue sur les toits de la grande rue est splendide. On aperçoit aussi une des tours du château qui est un peu plus loin. Le lac et les montagnes. Ce lac qui m'a tant manqué. Je t'avais écrit un jour, je crois que j'ai l'ennui du lac. En fait, j'avais déjà tellement l'ennui de toi. Deux mâles anciennes en osier abritent des nappes et serviettes blanches épaisses brodées dans un coin. Initiale LF. Pas dans l'arbre généalogique, j'en suis sûre. Dessous, une grande boîte à chaussures. Je l'ouvre délicatement. Un papier de soie jaunie entoure une rose baccarat séchée. Il y a aussi un carnet, couverture en velours brun rouge avec une fermeture délicate en métal sculpté comme de la dentelle. Une photo en noir et blanc s'en échappe. Un mot à l'encre passée, avec toute mon affection, ta Louise. Deux femmes se regardent malicieusement. Toutes deux portent un petit chapeau soigné, un bibi. Costume en tweed pour l'une, chemisier clair à col relevé, les mains dans les poches. À gauche, c'est toi. Manteau foncé, tache de naissance dans le cou. Sourire immense, un sourire flaming red. Je saute encore un bout. Le vilain rempaille repose dans le four. Le fumet de la sauce se mêle à celle du pain d'épices. Frank Sinatra chante dans le salon. Les bougies attendent d'être allumées. Les décorations brillent à leur place. Argenterie et porcelaine colorent la nappe blanche brodée LF. J'ai placé la photo de Louise F. et toi sur le bord de la cheminée, dans un cadre doré. La sonnette retentit et j'entends déjà les rires d'excitation de Clémentine et d'Alba. Dans quelques heures, elles s'émerveilleront devant l'arbre. Leurs yeux scintilleront comme l'étoile filante, trônant comme par magie sur la pointe du sapin. Ben et Sarah m'écouteront attentivement, leurs têtes légèrement penchées. Tu me souriras au-dessus de l'âtre. Ma vie pourra reprendre, tu ne seras jamais loin de moi. J'enclenche la bouilloire.
Tu veux enchaîner directement ?
Je peux enchaîner, ouais. Si ça te va. Donc moi j'ai écrit un texte qui s'appelle Shaker, qui est composé en fait de différents cocktails qui correspondent à différents moments de ma vie. Je vais vous en lire deux sur trois, le premier et le dernier. Alors le premier cocktail c'est Malibu Ananas. Serena prend le micro et je retire mon souffle. J'avale d'un trait trois gorgées de Malibu Ananas. Les mains moites, déchirées entre l'envie de la dévorer des yeux et la crainte que mon attitude ne trahisse tout le désir que j'éprouve pour elle. La salle du karaoké s'obscurcit. Serena cligne lentement des paupières et ramène ses cheveux en arrière. Ma peau se contracte comme quand Serena se penche au-dessus du piano le mercredi après-midi et que nos bras se frôlent. Notre professeur de chant a réuni un groupe interclasse qui se produit en public. Je n'ose pas proposer de morceau en solo. Je suis trop impressionnée par la voix et la prestance de Serena pour qu'un son ne sorte de ma bouche sans trembler. Tout ce que je me contente de faire, c'est passer, à chaque pause, devant la porte ouverte de sa classe afin d'apercevoir son visage, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. L'autre jour, alors que la cloche avait déjà sonné la fin de la récréation, je suis sortie de la cabine des toilettes. Serena était là, devant les lavabos. Je me suis figée sur place. Nos yeux se sont croisés dans le miroir. Elle m'a souri. J'ai rejoint mon cours, les joues en feu, sans avoir articulé une phrase, totalement chamboulée par sa présence inattendue. Serena tient le micro à deux mains et balaie la salle du regard. Elle paraît sereine. Je fais machinalement s'entrechoquer les glaçons dans mon verre pour me donner une contenance. À la table d'à côté, Lionel et ses copains rient fort. Voir des filles chanter, c'est clairement pas leur truc, mais ils patientent, en espérant qu'on va les suivre plus tard à la discothèque de la Peña Latina. Lionel m'observe, j'essaie de lui sourire. Depuis des mois, je parle de lui à mes copines, en sachant pertinemment qu'il me sert d'excuse. Je lorgne les bagues de Serena, le col marqué sous ses yeux, le haut rouge qui met en valeur sa poitrine, ses cols en noir. La professeure de chant a transformé les pronoms de la chanson que Serena a choisie. Voilà ce que ça donne. Vous pourrez détruire tout ce qu'il vous plaira. Il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Ça m'a semblé injuste, car Serena n'avait rien demandé. J'aime penser qu'elle n'aurait pas modifié les paroles de son plein gré. Sa voix douce et profonde suspend toutes les conversations dans la salle. Les adultes l'admirent, peut-être même que certains la désirent autant que moi. J'aimerais lui crier que mon amour à moi est authentique, qu'elle hante toutes mes pensées, jusqu'à rendre fade mes vacances en Grèce, car elle m'éloigne trop longtemps d'elle. Que si je bredouille ou me tais à chaque fois que nous sommes ensemble, c'est que mon attirance pour elle me muselle, littéralement. Dans ce bar du centre-ville lausannois, Serena chante avec assurance. Il a gommé les chiffres des horloges du quartier. Il a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Je bois deux gorgées de plus, les yeux rivés sur la seule boisson alcoolisée que j'apprécie du haut de mes 15 ans. Serena poursuit. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Je souris. Troisième cocktail. Je fais l'impasse sur la vodka orange. Troisième cocktail, Calimocho. Juliette referme la porte de la salle de bain derrière nous et s'appuie langoureusement contre le miroir en pied instable. Dans quelques jours, nous repartirons. Elle en France, moi en Suisse, après 10 mois d'université à Madrid. Nous célébrons la fin de cette folle année dans une tour de banlieue. Il est tard, on ne sait même pas vraiment chez qui on est. Il fait presque 40 degrés dehors. Nous avons bu des dizaines de Calimocho, mélange de Coca-Cola et de vin rouge bon marché. Si vous avez la référence. Cette mixture accompagne toutes nos manifestations contre la guerre en Irak et le gouvernement Aznar. Juliette rit et pleure à la fois, le coude sur le lavabo. Elle est vraiment ivre et peine à tenir debout. J'ai envie de la prendre dans mes bras. Elle joue avec mes sentiments, mais je lui pardonne à chaque fois. C'est plus fort que moi. Elle sait que je suis amoureuse d'Élodie, qui est en Suisse et vient régulièrement me voir ici. Notre relation à distance l'intrigue. Elle me pose beaucoup de questions sur notre couple. À chaque soirée arrosée, Juliette m'embrasse passionnément, parfois pendant des heures, sans se soucier du regard des autres. Ses mains caressent tout mon corps. Le lendemain, elle fait comme si rien ne s'était passé. Je l'aime et je la déteste à la fois. Juliette vomit dans les toilettes. La voix d'Alejandro Sanz nous parvient, lointaine, entre ses spasmes. J'hésite à avertir Eduardo, son amoureux, qui danse dans le salon. Mais je veux rester en tête à tête avec elle, être la seule à voir sa vulnérabilité et à retenir ses cheveux quand elle se penche au-dessus de la cuvette. Chaque fois qu'on sort, on se cherche, on se provoque. Ici, je ne désire qu'elle, malgré les avances que me font Marcus ou Giovanni. Je lui en veux d'embrasser si bien, mieux que personne, de poser ses mains contre mes clavicules avec tant de ferveur. Alors parfois, après de nombreux verres, je deviens méchante, comme je ne l'ai jamais été. Je lui dis qu'elle manque de consistance, qu'elle n'est pas digne de confiance. Puis je m'arrange pour embrasser un garçon devant elle, ou pour coucher avec son colocataire dans la chambre d'à côté. Juliette a fini de vomir. Elle se relève chancelante et se met à sangloter, bruyamment. Elle me plaque contre la fenêtre à moitié ouverte et m'enlace. Ses larmes coulent le long de mon cou, elle murmure dans mon oreille. « Qu'est-ce que je vais faire sans toi dans ma vie ?» Elle relâche brusquement son étreinte et ressort en titubant pour s'écrouler dans les bras d'Eduardo, qui boit un mojito sur le canapé. Je m'éloigne vers le balcon pour ne pas assister à leur baiser fougueux. Mon débardeur est encore imprégné des larmes de Juliette. Je passe mes doigts sur le tissu pour m'assurer que j'ai pas rêvé. Dans ma poche, mon Nokia vibre. C'est un SMS d'Elodie. Elle me dit « Tu me manques, vivement que tu rentres à Lausanne. J'en peux plus de me faire draguer par des meufs hétéros. »
Merci d'avoir partagé ces textes avec nous. Et puis, je voulais peut-être en partager un troisième d'une personne qui n'est pas là, mais pour donner encore une autre couleur du volume. C'est un texte qui s'appelle « Au fond de l'eau, j'ai retrouvé ton nom » de Julie Lamidieu, qui se passe à Vesoul. Et l'héroïne, qui est encore très jeune, a flashé sur une fille de l'école qui s'appelle Alex. Le problème, c'est qu'Alex n'est pas gentil du tout. Et c'est l'occasion de décrire un peu la vie à Vesoul. Vous allez voir que Julie n'est pas tendre avec Vesoul. Ville de droite, rurale, industrielle. Vesoul est la ville la plus peuplée du département de Haute-Saône. 14 914 habitants. Son cœur économique, c'est l'usine PSA. Les gens bossent à la Peuge. La circulation urbaine dépend des horaires d'entrée et de sortie des ouvriers. L'usine régule la vie de tout le monde. Vesoul est un sujet de blague. On nous prend pour des gueux. Quand on va à Vesoul, on en fait vite le tour. Le centre-ville n'a que deux rues principales. La librairie papeterie Disquaire a été remplacée par une salle de sport. Tout a été délocalisé à l'extérieur dans de nouvelles zones commerciales, Oasis et Oasis 3. Dans le journal, je lis un article sur la récente implantation d'un Burger King et sur le projet de création d'un Zara et d'un H&M. Les propos d'un élu sont cités. Des habits, de la nourriture de qualité, Vesoul ne pouvait pas rêver mieux. La ville est fantomatique en hiver. Dès que les gens sortent du travail, les rues se vident. Les bars sont traversés par quelques spectres. Les volets se ferment. Pas un chat, pas une lumière. Il n'existe aucune association LGBTQIA+ locale. Le mot lesbienne s'utilise ici dans des discussions grivoises et se chuchote seulement sous la table. Nous n'avons pas d'icône queer, mais nous sommes gavés de politiciens hors pair. Lorsque la loi pour le mariage pour tous a été votée, le maire député aurait appuyé accidentellement sur le bouton pour. Marine Le Pen nous honore de sa présence une fois tous les 3 ans. D'après la légende, elle ferait pleurer de joie les Vésuliens. Ces mêmes bougres que l'on retrouve dans le journal pour des gros titres rocambolesques. Vesoul, 2 points, il roule à 131 au lieu de 90 km à l'heure. Interpellé pour excès de vitesse, le conducteur roulait visiblement trop vite pour terminer la bière qu'il avait ouverte et posée dans l'habitacle. Le 25 novembre, Alex se rend à la Sainte-Catherine. C'est la plus grosse foire agricole et paysanne de l'année. Instaurée il y a plus de 700 ans, la tradition veut que les jeunes filles de 25 ans et non mariées prient Sainte-Catherine pour leur trouver un mari. 10h45, Marine Le Pen se déplace à la foire de Vesoul. Dans le cadre du programme « La France des oubliés et l'aménagement des territoires ». 10h55, Catherine d'Alexandrie, de qui la foire tire son nom, se retourne dans sa tombe. 11h05, Miss Doux 2021, seconde dauphine de Miss Franche-Comté, âgée de 23 ans, se promène officiellement dans les rues de Vesoul. 14h14, le concours du plus beau chapeau de Catherinette commence. Alex regarde les 12 participantes qui vont se disputer le prix cette année. Elle a un crush pour Miss Groupama. Les Catherinettes défilent sur le podium pour se présenter. 15h, Marine bouffe du gruyère et assiste à la démonstration de chevaux comtois. Les gens sont contents. 16h15, Madame Peps Coiffure reçoit le prix de la Catherinette. Elle repart avec un bon cadeau d'une valeur de 2500 euros. Il y a encore plein de choses qu'on n'a évidemment pas dites sur ce recueil, sur Paulette éditrice aussi. Paulette a une maison qui se soucie beaucoup d'éthique, donc on imprime en Suisse par exemple, ce qui est un choix assez rare parce que ça coûte cher. Voilà, c'est une donnée que je tiens à relever parce qu'on oublie souvent de la mentionner, parce qu'on est d'abord préoccupé par les contenus, par le rapport qu'on a pu créer avec les autrices. Et donc, des fois, on oublie qu'on fait des choses pour l'environnement aussi, donc j'essaie de me le rappeler à moi-même. J'ai plus envie d'ouvrir la discussion plutôt que de poser des discussions. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur ce livre? Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Jordan et Émilie qui sont là, par exemple? Il y a un mauvais journaliste que je connais qui dit « La première question est la plus dure, passons à la deuxième.
» Voilà. Comment s'appelle le processus de choix des textes ?
La première question est dure pour moi aussi en fait. Assez naturellement en fait, parce que y a toujours un grand malentendu dans l'édition qui est: est-ce qu'on écrit pour écrire ou est-ce qu'on écrit pour être publié? Et en fait c'est deux choses très différentes qui posent des enjeux très différents, et donc beaucoup des textes qu'on a reçus n'étaient pas forcément écrits pour être publiés. On en a quand même sélectionné certains qui étaient dans cette catégorie, si on peut dire, parce qu'on sentait un potentiel et qu'on avait envie d'accompagner des personnes qui, justement, ne sont pas forcément audibles en littérature ou lisibles en littérature, parce que d'habitude, elles sont plus facilement marginalisées que d'autres ou invisibilisées. Mais c'était assez évident, en fait. On les a tous lus, et puis une semaine est passée, on avait rendez-vous avec Noémie dans un espèce d'hôtel zurichois qui sert des super petits déjeuners, histoire de se, de se motiver. Et puis c'était assez facile en fait de se dire: tiens, après une semaine, lesquels t'as mis dans le gros dossier oui, lesquels t'as mis dans le gros dossier non, et lesquels t'as mis dans le dossier peut-être qui est très chiant parce qu'il va falloir prendre une décision. Et puis après une semaine, ça s'était décanté un peu tout seul, et peut-être le tri s'opérait, et puis tout était assez naturellement complémentaire en fait. Il y avait à peu près la moitié des textes qui venaient de Suisse, l'autre moitié qui venaient de France. Les genres littéraires étaient différents. Il y a pu y avoir quelques textes où elle ou moi avions une vision un peu différente, ou sentions quelque chose qui nous attirait, et donc on se fait confiance dans ces cas-là. La personne suit le texte de plus près. Mais globalement, on est d'accord sur tout. Voilà. Donc, l'entente cordiale.
Je voulais savoir pour les autrices, ça a eu des répercussions pour vous d'avoir écrit ce texte dans votre vie personnelle, ou les échos que vous avez eus? Enfin, est-ce qu'il y a une suite à des réactions, suite à ce que vous avez écrit? C'est des textes, j'imagine, très personnels. Ouais.
Pas encore. je pense qu'il y a plusieurs niveaux de répercussions. Il y a la répercussion que tu as de toi à toi, parce qu'en effet, tu écris quelque chose qui est quand même intimiste et qui peut être en partie autobiographique. Je trouve que ça demande... c'est pas vraiment un deuxième coming out, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de reperformer quelque chose qui, en l'occurrence pour moi, avait été dépassé depuis un bon moment. Donc ça a déjà provoqué ça en moi, avec pas mal de doutes, est-ce que j'ose vraiment faire quelque chose de ça, à qui je le dis, donc oui, clairement. Et puis aussi, j'ai quelques personnes de mon entourage qui ont relu, et ce que je trouvais vraiment intéressant, avant même la sortie du livre, c'est ce que ça peut provoquer, qu'on soit lesbienne ou pas, chez certaines personnes, dans l'identification de ce que, à certains âges de la vie, ou de ce qu'on aurait pu vivre beaucoup d'entre nous en tant que lesbienne. Et ça, j'ai trouvé vraiment beau, en fait, ce partage, parce que je trouvais que ça permettait de faire que des personnes, tout d'un coup, se confient sur des choses où j'aurais pas pensé qu'on allait aller sur ce terrain-là. Et puis ça, j'ai trouvé vraiment beau. Pour l'instant, c'est ça, ouais. Merci. Mais ça demande quand même de sortir de sa zone, ça c'est rare.
Merci. C'est pas mal fictionnel, mais il y a beaucoup de ma grand-maman dans ce texte. Et quand je l'ai fait lire à mon papa, j'avais un peu peur de sa réaction. Et il m'a rendu mon texte avec 1000 remarques, mais que sur l'orthographe. Et on en est resté là. On n'a jamais parlé. Voilà. Okay. Je trouvais ça assez rigolo. Oui, il y avait des choses à dire sur l'orthographe et la grammaire.
Mais il y a des éditeurs pour ça.
Ouais, clairement. Merci.
Entre autres.
Moi, je disais au début, ça, peut-être il y avait une sorte d'urgence, quand j'ai vu l'appel à contribution, que... c'est ce que disait Guy au début, il me semble qu'il y a un manque de ce genre de texte ou de possibilité de parler de choses qu'on a peut-être toutes vécues d'une manière ou d'une autre, Enfin, moi, je pense, en ce qui me concerne, ce moment où on se cherche et puis on sait à l'intérieur de soi, mais on peut pas encore le dire. Et puis, je me dis, c'est quelque chose sur quoi j'aimerais bien une fois écrire. Et l'impulsion, c'était ça, de dire, bah, là, c'est vraiment l'occasion de le faire. Après, faut le faire.
Et moi, j'avais écrit avant, en fait, l'appel à texte. Et c'était parti un peu d'un essai d'écriture un peu automatique, puis il en est ressorti ce qu'il en est ressorti. C'était pas un focus là-dessus.
Est-ce que vous avez été marqué par des textes qui sont dans le livre, autre que le vôtre?
Oui,
vous avez été marqué par le vôtre, hein.
Ouais, moi j'ai pas fini de tout lire, okay. Parce que comme on disait, on les prend par petits bouts, ouais. Pour les digérer un peu. Oui, ça.
Ouais, il y en a qui ont résonné avec
beaucoup. Ouais, clairement. Moi, j'ai pas non plus. Enfin, c'est ce qu'on se dit. On s'est dit ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est un livre qui se déguste. Ouais. Enfin, puis que c'est dur de tout lire à la fois, parce que justement, il y a beaucoup d'histoires qui sont fortes, assez intimistes. Et puis, je trouve que les textes, qu'on s'identifie ou pas, il y a quand même vraiment beaucoup de choses où j'ai l'impression qu'il y a vraiment des bouts qui nous rassemblent. Mm-hmm. Donc, ouais, moi, j'ai été marquée par beaucoup de ces textes.
Non. Est-ce que vous êtes rencontrés?
Entre
les auteurs. Ouais, si vous êtes rencontrés, si vous avez eu l'occasion de vous rencontrer, en physique.
Il y a eu une occasion?
Il y avait un pique-nique. Après, ben, c'est sûr que c'est difficile parce qu'il y a quand même 28 personnes qui ont contribué au texte, donc, et qui sont réparties en deux pays. Mm-hmm. Donc on a essayé de créer un peu 2-3 occasions, mais après on s'est plus dit qu'on faisait des événements de proximité un peu comme ça, où on arrive tout à coup à rassembler 2 personnes, 3, voilà. Mais c'est toujours difficile parce que c'est... On avait fait un premier recueil qui s'appelait Cuisson Feu de Bois, qui était pour toutes les identités LGBTQIA+, dans un effort d'unité, et il y avait une certaine magie, enfin voilà, les gens s'étaient bien entendus, il y a même un collectif qui s'appelle Aléax qui a vu le jour, issu de cette démarche là avec plusieurs des autoristes qui étaient dans le volume. Après c'était difficile, on s'est dit tiens, est-ce que ça peut remarcher, est-ce qu'on peut réinsuffler cette petite dynamique, mais les enjeux sont différents parce qu'en fait il y a plusieurs personnes qui se sont quand même aperçues qu'elles se connaissaient ou qu'elles connaissaient des personnes en commun, etc. Donc il y a une espèce de constellation qui se tisse l'une autour de la France, l'une autour de la Suisse, et puis, mais il y a quand même des ponts aussi entre les deux, donc ça prend petit à petit, mais c'est difficile de réunir 28 personnes.
Il y avait un choix pour ces France Suisse, ou il y avait une fin Belgique, Luxembourg, Canada, l'Afrique, le reste des pays francophones, quoi.
Alors, il n'y a pas eu beaucoup de propositions qui sont venues du Québec, même si on a eu quelques-unes. D'Afrique francophone, je pense pas. Nous, on n'était vraiment pas fermés à l'idée que ce soit plus international. Mm-hmm. Il s'est trouvé qu'on s'est dit, on va, entre guillemets, statuer sur les textes, parce que c'est quand même ça qui fait la valeur du volume une fois qu'il existe. Et à la fin, on s'est dit, il y avait des noms qu'on connaissait, qu'on avait déjà croisés, d'autres totalement inconnus. Et à la fin, on avait ces 27 textes, à peu près 50-50 Suisse-France. Donc on s'est dit, on en reste là, on va pas modifier cet équilibre juste pour le plaisir de dire oui, accessoirement, il y a un texte qui vient de... Mm-hmm. Voilà, on en est resté à notre enthousiasme naïf du début.
Mm-hmm. Vous l'avez présenté en France, donc, à Paris. Est-ce que vous allez aller ailleurs ? À l'étranger, voire justement au Canada, voire ailleurs.
C'est très difficile pour le Canada parce que c'est des logiques de distribution qui ont du mal à sauter l'Atlantique.
Et puis,
ouais, dans les deux sens, même si maintenant ça s'ouvre un petit peu. Le Québec est assez protectionniste. Enfin, il y a un truc qui a du mal à s'intéresser déjà aux voix autochtones sur place, mais aussi aux autres littératures. Puis s'il y a une autre littérature qui s'impose, c'est la française, quoi, avec les grosses maisons qui ont les moyens de sauter par-dessus l'océan. Donc, c'est pas dit qu'il va rien se passer parce qu'on a quand même des touches avec le Québec, par exemple, ou avec Bruxelles. Et puis il y a des librairies. En fait, c'est plus des librairies qui tout d'un coup entendent parler de nous et se disent tiens, on va commander les livres, et puis d'un seul coup, bam, ils sont dans une librairie bruxelloise, bam, ils sont dans une librairie strasbourgeoise. Mmh. Donc ça fait toujours plaisir aussi de voir qu'il y a des petites flammes qui s'allument un peu partout sur la carte. Ça permet au travail de circuler, puis au final, nous, ce qu'on veut, c'est pas... Enfin, vendre des livres, c'est bien, mais faire circuler le travail des autrices, c'est mieux. Voilà.
Et dans cette perspective, est-ce que vous allez voir une version électronique pour éviter justement d'utiliser encore plus de ressources, de plus de papier et d'encre et... Recycler vos électrons.
Alors pour l'instant, les études disent que le bilan du livre électronique n'est pas si bon et qu'en fait le livre papier peut être meilleur, à condition qu'on ait évidemment des ressources d'origine recyclées ou en tout cas certifiées, qu'on fasse attention à ce qu'on fait, donc ne pas imprimer des exemplaires qui vont finir à la poubelle in fine parce qu'il y en a trop. Donc non, c'est pas notre idée, nous on a toujours été plus sur l'idée que le livre papier apportait une autre expérience. Que si on voulait un jour créer quelque chose comme du livre audio ou du livre numérique, ben, il fallait que ça ait un sens avec le support et l'expérience de lecture que ça allait offrir. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la bonne formule et donc on a décidé qu'on en restait au livre purement papier, sachant qu'on utilise du papier 100% recyclé, choix rare parce qu'en fait le papier recyclé coûte plus cher que le papier neuf et donc il n'y a pas beaucoup de maisons qui choisissent le papier recyclé.
Oh, juste pour... améliorer la diffusion de l'œuvre au Québec et également en Afrique, par exemple, pour éviter l'envoi physique.
Ben ça, c'est effectivement un enjeu, mais c'est pas comme si on croulait sous la demande non plus. Enfin, voilà, faut être réaliste. Donc, on en reste à une idée que l'investissement coût-bénéfice que ça nécessite, voilà, doit être justifié, et puis c'est déjà... Pour l'instant, c'est clairement pas le cas.
Je voulais juste savoir à propos de Paulette Édition, comment c'était né et depuis quand ça existe, enfin un peu quels sont les choix éditoriaux, tout ça.
Paulette est une maison qui a eu plusieurs vies. Ça a commencé en 2009 et à l'époque c'était les éditions Paulette qui ont été créées par Sébastien Meyer. C'était un catalogue très généraliste parce que Sébastien est une personne formidable, mais il n'avait pas du tout d'expérience en l'édition, donc il a vraiment fait les choses comme il voulait. Avec un catalogue coup de cœur, etc. Et quand Noémie et moi, on le connaissait, on a repris la maison en 2015, parce qu'il en avait un peu marre, il était fatigué, il voulait faire autre chose. Et on s'est dit, bah, c'est l'occasion de faire les choses comme on a envie de les faire, parce que Noémie et moi, on était passés dans des maisons d'édition plus installées, où on avait vraiment appris ce que c'était que l'édition professionnelle. Et donc Paulette est devenue éditrice, et puis à partir de là, on a fait d'abord une série de petits livres qui s'appelaient des pives, qui étaient consacrés à la fiction courte, donc c'était vraiment des petits ouvrages, à peu près une heure et demie de lecture. Il n'y avait pas de ligne à proprement parler, si ce n'est qu'il fallait que cette expérience d'une heure et demie elle soit forte, donc par le style, par le traitement, par le sujet, enfin voilà. Et en 2021, après une petite année de réflexion, on s'est dit on va lancer une collection de livres LGBTQIA+, parce que ça nous correspond bien aussi. Donc Paulette a en plus fait son coming out, si on peut dire ça. Et il y a eu ce premier volume, Cuisson au feu de bois, dont je parlais tout à l'heure. Un certain nombre de publications individuelles. Et puis ben, il y avait ce manque de textes lesbiens doux, ce présent projet. Et en parallèle, il y en a eu un autre qui est arrivé grâce à Nathalie Garbelli, qui est une traductrice. C'est un roman qui s'appelle Autrement que les autres, qui a été écrit par Ida Herne. C'est normal si le nom ne vous dit rien, parce qu'en fait, Ida Herne n'a pas réussi à publier ce texte de son vivant. Et elle est décédée en 1990. Elle avait 84 ans, sauf erreur. Et encore cette année-là, elle a essayé de le faire publier, parce qu'elle l'avait écrit dans les années 60. C'est un roman lesbien autour de trois femmes qui vivent entre Lucerne et Zurich. Et il y en a deux qui sont en couple. Elles en rencontrent une troisième. Il y a une idylle qui se noue entre deux. Donc c'est un texte qui, par plein d'aspects, est très en avance, qui fait écho à des préoccupations qu'on peut avoir aujourd'hui sur le polyamour ou sur plein d'autres choses. Mais Ida Herne n'a jamais réussi à le faire publier. Et en fait, heureusement, en 1990, quand elle a fait ses derniers essais pour y arriver, elle a donné une copie à une chercheuse, qui l'a fait paraître il y a 2 ans en Suisse allemande. Et donc on a la version traduite qui est arrivée chez nous grâce à Nathalie qui avait repéré ce texte. Et on était content que les deux livres sortent en même temps puisqu'on avait un pied dans la création contemporaine avec celui-ci et puis un pied dans le matrimoine avec l'autre. Et ces deux projets qui sont très différents en fait, mais ça nous a donné l'occasion de nous plonger dans aussi qu'est-ce que c'est l'héritage littéraire LGBTQIA+ en Suisse romande. Il n'y a pas beaucoup de contenu produit là-dessus, mais on y travaille. Voilà.
Est-ce que vous avez réécrit d'autres textes après cela ?
Je crois pas. Ben, j'écris beaucoup, mais rien de sérieux.
Il y a l'envie de réécrire des textes.
Alors des textes pas créatifs comme disait Guy, des textes plus pour le travail, oui, mais c'est vrai que ben non, justement, je trouve que c'est déjà assez engageant le processus au moment où on a écrit, et après il y a tout le processus de production de livres, mais par contre je trouve que ça donne envie d'aller plus loin ou justement de creuser, c'est plutôt une ouverture que après justement, enfin à creuser. Ouais.
Là c'est vraiment un processus, on a vraiment été énormément aidés, coachés. Et moi, j'ai trouvé assez difficile de passer de notre texte brut au produit final, entre guillemets.
Il y a eu beaucoup de changements entre les
deux. Ben, je trouve que c'était dur de s'y remettre. Enfin, surtout que moi, il y a eu pas mal de temps entre le début et l'édition, depuis il y a presque 5 ans. Puis j'ai trouvé assez difficile de... Le processus, c'était assez c'était un travail.
C'est un travail, puis je trouve que c'est aussi intéressant. Enfin, moi qui n'avais justement pas écrit plutôt de ce genre de texte, je trouve que c'est... Enfin voilà, d'être coachée par Noémie et toi, c'est vraiment bien parce que ça permet de voir ça complètement différemment, d'être accompagnée, d'avoir des suggestions auxquelles tu n'aurais pas pensé. Puis j'ai aussi quelques personnes de mon entourage pour ça, donc ça a été vraiment génial, les retours, qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair. Puis c'est vrai que c'est quand même tout un cheminement, je trouve. Donc tu prends quand même pas mal de temps avec le texte, mais ça j'ai trouvé vraiment super intéressant.
Et nous, évidemment, c'est un des aspects qui nous intéresse aussi dans le métier, parce qu'il peut y arriver que des éditeurs ou éditrices interviennent peu en fait sur le texte, parce que c'est du travail en fait, c'est beaucoup d'heures de lecture et d'échange. Mais à quoi on sert si on est juste une plateforme qui prend des textes et qui les envoie à l'imprimerie en fait, et qui après s'occupe de les vendre? Mais nous, on considère que notre travail commence au moment où on reçoit un texte, et puis après, il faut que ça devienne un livre, enfin un livre collectif en l'occurrence, mais un livre. Dernière question. Après.
Moi j'ai une question, mais c'est peut-être un peu difficile d'y répondre. Mais est-ce qu'il y a une lecture qui vous a un peu marqué et du coup donné l'envie d'écrire des textes? Enfin, ce texte-là, en l'occurrence. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Est-ce que vous pensez qu'il y a une... Enfin... Il y a un événement qui s'est passé qui fait que peut-être... Même si c'était il y a longtemps ou comme ça... Enfin, voilà, c'est un peu flou comme question.
Non,
enfin,
c'est une super question.
C'est une super question,
c'est
mais j'ai pas
super
de
réponse. En tout cas, il faut réfléchir.
Ouais, c'est ça. Ça demanderait réflexion. Pas a priori, comme ça.
Moi, je dirais, je trouve que c'est compliqué. Enfin, il y a deux choses. Je dirais, si moi je devais dire un livre qui m'a complètement abasourdi dans la description des rapports queer, ou c'est vraiment James Baldwin, quoi. Un bouquin qui s'appelle Harlem Quartet, qui moi m'a mise au tapis en termes de lecture. Je pense que j'ai rarement eu un choc littéraire aussi fort. Et je me disais comment c'est possible de décrire aussi bien des relations, la complexité des relations, ce qu'on peut ressentir. Enfin, c'est vraiment une lecture. Je recommande à tout le monde si vous ne l'avez pas lu.
Harlem Quartet.
Harlem Quartet d'un auteur qui s'appelle Jane Baldwin. Mais je ne pense pas que c'est ça qui m'a donné envie d'écrire, mais je me suis dit en tout cas c'est possible d'écrire là-dessus et de transporter les personnes. Et par contre, après. Je pense que là, c'était plus vraiment l'intime. Ben, on disait un peu ce deuxième coming out, mais il y a quand même cette envie, en fait, de se dire qu'on est, j'imagine, plusieurs à avoir vécu des choses quand même très compliquées avant de faire son coming out. Quand on l'a fait, voilà, enfin, tous ces trucs qui peuvent être vraiment générateurs de beaucoup de souffrance. Surtout à certains âges de la vie, on n'a pas confiance en soi. Et puis ça, je me suis dit, faut une fois essayer de mettre des mots dessus, indépendamment des livres. Enfin, je trouve que c'est... politiquement important de le faire.
On peut aussi continuer la discussion informellement. Il paraît qu'il y a un repas. Il y a aussi l'occasion d'acheter le livre auprès de la librairie. Il ne faut pas oublier, il y a une possibilité qu'il soit signé quand même par les personnes que vous avez. Mais encore un grand merci à vous deux, Jordan et Émilie.
Merci à vous. Thank you.
Merci beaucoup. Vous ne levez pas tout le monde. Il y a aussi, si jamais, l'autre porte là qui est ouverte, si vous voulez. Bon, sauf comme vous pouvez. Sinon, il y a un bar, il y a à manger, ça va venir. Si vous êtes d'accord, un peu de plier les chaises et de les mettre là, ça serait hyper stylé, mais tranquillement. Merci.
Merci beaucoup.
C'est
bien que vous soyez proche, ça fait un petit... Ouais, franchement, ça contient quand même, c'est super cool.